Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue en 2024, après une année 2023 où votre émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs aura su, je l'espère, vous faire vivre l'actualité économique dans le monde.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs
sur RFI.
Actualité parfois dramatique, le contexte géopolitique reste très lourd, les conséquences du changement climatique sur les activités humaines toujours plus nombreuses, mais une actualité parfois aussi source d'espérance. Celles et ceux qui pensent l'économie de demain sont passés ici dans nos studios. De fortes personnalités comme les économistes Kako Noubouko, Jacques Attali, Carlos Lopez, Lionel Zinsou, Abdou Soulaye Diop, Gabriel Zucman en lutte contre les inégalités, Zouheira Youssoufou de la Fondation Dangote, Delphine Traoré de Sanlam Alliance, Philippe Simo, porte-voix des diasporas africaines ou encore Asalfo de Magic System, bien d'autres encore, des entretiens exclusifs avec tous ces grands invités à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique Les invités de l'économie. Avec eux, nous avons parlé souveraineté économique, inflation, matières premières, transition énergétique, crise financière et monétaire ou encore des relations entre les États et les entreprises. Une année aussi où, avec notre réalisateur Guillaume Munier, nous avons donné la parole à celles et ceux qui innovent, qui lancent des initiatives, des projets, des entrepreneurs dans tous les sens du terme, au masculin comme au féminin, qui veulent changer le monde. Parmi eux, les militants d'ATD Carmonde, à la recherche du travail décent, Kera Nawel Benaïssa, start-upeuse algérienne qui recycle les déchets au profit des populations excentrées, des jeunes geeks en Côte d'Ivoire ou encore un patron québécois qui embauche des travailleurs africains. Et une année aussi de voyage dans ce monde francophone, cher à RFI, des missions délocalisées au Québec, donc en Côte d'Ivoire ou encore au Maroc. C'est d'ailleurs à ce pays que nous avons décidé de consacrer cette toute dernière émission de l'année, un royaume du Maroc aux multiples facettes, pays où les inégalités sont criantes, mais un pays, nous allons le voir aussi, tourné vers l'avenir, vers le monde et notamment le reste du continent africain. Dans quelques minutes, nous irons à la découverte des entrepôts de Chari, acteur devenu important du secteur du e-commerce, dirigé par Ismaël Belhayat. Dans ce reportage inédit, il va nous raconter en détail les secrets de sa réussite dans le commerce, la finance et dans la tech. Restez bien connectés puisque nous allons à présent parler du grand bouleversement économico-technologique engagé cette année. Suivez-nous sur RFI.fr, à la page Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur notre application Pure Radio et notre page Facebook RFI Écho. Bonne émission à toutes et à tous. Cette année 2023 aura été incontestablement l'année de l'IA, l'intelligence artificielle, entrée de plein pied dans le débat technologique, scientifique, éthique, mais aussi économique. Comment les entreprises, comment les salariés vont s'adapter à ce mouvement majeur? Quelles sont les opportunités créées? Quelles sont les limites aussi? Un écosystème a été révélé au grand jour dans le sillage de la star de l'IA, ChatGPT, qui a défrayé la chronique tout au long de l'année jusqu'au psychodrame du vrai faux licenciement du patron d'OpenAI, Sam Altman. L'IA suscite des convoitises, tout le monde s'y met et l'Afrique n'échappe pas à cet engouement. À mes côtés, en studio, une pionnière de l'intelligence artificielle au Maroc. Bonjour Amal Al-Fala Segrouchni.
Bonjour.
Vous êtes la présidente exécutive du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, AI Movement, au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique. En quelques mots, qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre de recherche ?
Alors, AI Movement, c'est un centre d'excellence en intelligence artificielle et sciences des données. On fait de la recherche, on fait du développement, on fait de la formation, on fait de l'innovation et on fait du transfert vers la société et vers les entreprises.
Combien de personnes travaillent chez vous ?
Alors aujourd'hui, on a démarré il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est une soixantaine entre le staff, les enseignants-chercheurs et les ingénieurs. Et nous avons comme objectif d'atteindre 300 personnes à horizon de 2025.
Comment êtes-vous financé ?
Alors, nous avons plusieurs sources de financement. Bien sûr, on a des, ce qu'on appelle des financements récurrents qui nous viennent de fondations, en particulier la fondation Ibn Rushd et la fondation OCP, le géant du phosphate,
Au Maroc.
Au Maroc, bien sûr. Nous avons aussi des financements qui viennent des contrats de recherche. Nous avons un certain nombre de laboratoires communs avec les industriels, autres que OCP. Mmh. Et nous avons aussi des financements qui nous viennent des formations que nous déployons sur le campus, mais pour tous les Marocains.
Alors, avant d'en venir au cœur de notre sujet, Amal Al-Fella Segrouchni, et à l'émergence d'un hub africain de l'intelligence artificielle, je voudrais que vous nous racontiez rapidement votre parcours. J'ai lu dans un récent article de Jeune Afrique une anecdote. Lorsque vous avez eu votre baccalauréat à Rabat, au Maroc, une cousine vous a offert un livre intitulé « Les non-informaticiens seront les handicapés du 21e siècle ». C'est un peu abrupt, peut-être, comme titre, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui?
Alors, effectivement, c'était un que sais-je qui m'avait été offert par cette cousine qui parlait de l'informatique comme étant le levier qui va permettre aux personnes d'être un peu en phase avec ce qui se passait au niveau des développements de l'informatique.
Et effectivement, c'était en quelle année sans...
C'était en 1980. Mais le que sais-je, il doit dater d'un peu avant. Donc en fait, l'idée c'est que c'était un livre qui, à mon avis, avec du recul, prévoyait déjà la fracture numérique. Ce sont ces personnes qui sont aujourd'hui déclassées au niveau sociétal parce qu'elles ne sont pas capables d'utiliser des outils d'informatique. Et moi je suis convaincue qu'aujourd'hui, on assiste à une deuxième fracture, je dirais plus profonde que la fracture numérique. J'appellerais ça la fracture de l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui vont pouvoir utiliser les outils d'intelligence artificielle et collaborer avec l'intelligence artificielle et ceux qui vont rester sur le bord du chemin. Et c'est ça qu'on veut éviter. Mmh. Ce qu'on veut éviter, c'est de rendre l'informatique et l'intelligence artificielle, puisque pour moi, l'IA, c'est la figure de proue du numérique, on veut essayer d'éviter que certaines personnes soient exclues de cette nouvelle révolution qui est celle de l'intelligence artificielle.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à ce sujet de l'intelligence artificielle? Vous avez été formée ensuite en France.
Alors oui, moi je suis à la base mathématicienne. Donc j'ai commencé par des études de mathématiques après mon baccalauréat. Vous savez, ça reste quand même le chemin royal pour les études supérieures, les mathématiques, aujourd'hui encore. Et tant mieux, c'est très important de s'investir. Moi, c'est un message que je donne aussi aux jeunes. Et c'est très important de ne pas faire l'impasse sur les mathématiques. Et donc, des mathématiques vers l'informatique et de l'informatique vers l'intelligence artificielle, c'est une question de spécialisation. J'ai découvert les réseaux de neurones, j'ai découvert la représentation des connaissances, j'ai découvert un certain nombre de matières qui sont en relation directe avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai passé ma thèse en 1991, donc vous voyez, ça date un petit peu. Ça fait 30 ans que je fais de l'intelligence artificielle, avec toujours ce focus qui est on veut développer des outils, on veut développer des produits à impact sociétal. Je ne fais pas de la recherche pour la recherche. Je fais de la recherche pour résoudre des problèmes concrets. Mais souvent, lorsqu'on parle de recherche appliquée, on dit bon, il ne faut pas de recherche fondamentale. Il faut faire du fondamental pour passer à l'appliqué.
Alors, vous avez été professeur dans plusieurs établissements universitaires. Vous avez eu aussi une vie dans le secteur privé. Vous avez travaillé avec de grandes sociétés comme Thales, comme Dassault Aviation, comme la Société Générale. Vous appliquiez déjà vos idées dans votre travail dans ces sociétés?
Oui, oui, tout à fait. Thales, j'ai une longue collaboration avec Thales. Je suis encore aujourd'hui titulaire de la chaire d'excellence intitulée « Les radars intelligents » en utilisant des techniques d'IA hybride, d'intelligence artificielle hybride, bon, sans être technique. Mais l'idée, c'est comment faire des radars qui soient intelligents grâce justement à l'adoption et l'introduction d'algorithmes d'intelligence artificielle dans les radars. Les radars qui sont embarqués sur des drones ou sur des avions, ou même qui sont au sol, parfois.
Est-ce qu'au début, vos collègues ou votre hiérarchie vont regarder avec des yeux un peu ronds en disant qu'est-ce qu'elle veut faire? Comment est-ce que, effectivement, cette intelligence artificielle va vraiment, à court ou à moyen terme, nous aider dans...
Alors, au sein de l'université, on n'avait pas vraiment de problème. On était relativement... Bon, il y avait de la bienveillance sur nos travaux, sur ce qu'on faisait, sur nos orientations. Là où ça devenait compliqué, c'est lorsque vous arrivez dans une entreprise, aussi grande soit-elle, et vous commencez à leur parler d'intelligence artificielle. Et pendant très longtemps, on n'était pas toujours très compris. Donc c'est pour ça aussi qu'il fallait faire de l'appliquer. Il fallait leur dire, vous voyez, je suis capable de résoudre votre problème en utilisant des techniques d'intelligence artificielle et on doit pouvoir vous apporter des optimisations. Bon, j'ai travaillé sur un sujet, je vais donner juste un exemple, de système multisenseur multifonction sur les drones. Et ce sont des optimisations qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps au sein de Thales. Donc ce que nous avions apporté dans le cadre de ce travail avait abouti à un très grand projet sur les senseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris que les techniques d'intelligence artificielle allaient apporter des solutions à des problèmes que parfois ils n'arrivaient même pas à formaliser.
Alors, Amal Al-Fallah, Segrouchny, beaucoup de récompenses dans votre carrière, de nominations, d'activités diverses. Et puis, à un moment de votre vie, l'envie ou le projet ou la nécessité de revenir dans votre pays, le Maroc. Pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais je dirais que la principale, c'est le give back.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, voilà, on fait de l'anglicisme.
Rendre.
C'était rendre un peu.
Rendre à mon pays.
Rendre à mon pays, à ma famille, aux gens que j'aime, un peu de ce que j'ai pu accumuler pendant mon parcours scientifique. Je dirais pas que académique, puisque j'ai toujours été un pied dans l'industrie et deux pieds dans l'université. J'avais toujours des collaborations avec le Maroc, mais ça devenait très important de les institutionnaliser. En fait, c'était un peu aussi une revanche. Parce que quand j'ai eu mon doctorat, je voulais faire de l'IA au Maroc. Et là où je me présentais, on me disait « Oula, ce que tu fais, c'est très bien, mais on n'en a pas besoin. »
C'était trop tôt.
C'était trop tôt, ouais. C'était vraiment trop tôt. 30 ans auparavant, c'était pas du tout dans l'air du temps. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité, et je pense que le top management, que ce soit de l'Université Mohamed VI Polytechnique ou de l'OCP, était prêt à aider à développer ces thématiques, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour créer AI Movement.
Vous diriez que l'Afrique, entre-temps, a pris du retard ?
Tout le monde a pris du retard. Le Maroc, l'Afrique et tous les pays qui ne se sont pas, disons, dépêchés à adopter ces technologies.
Alors, les Américains et les Chinois ont été plus vite.
Clairement. Et ils avaient les financements qui allaient avec. En 2017, c'était la Russie, c'était Poutine qui disait que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde. Et à partir de 2017, il y a eu une prise de conscience à l'échelle mondiale. En 2018, l'Europe a dit « il faut que l'Europe ait sa stratégie d'intelligence artificielle ». Mais c'est toujours la même chose. On va lancer des stratégies parce qu'on voit qu'ailleurs, c'est en train de se mettre en place. Donc, on n'est pas précurseur, on est juste en réaction à des choses qui vont se passer au niveau du globe.
Et c'est ce qui s'est passé au Maroc, pas de réelle stratégie mais mise en place,
mais en fait,
des initiatives, mais pas un plan global.
Pour l'instant, il n'y a pas de stratégie nationale d'intelligence artificielle. On est en train d'essayer de mettre en place une stratégie du digital. Pour moi, les choses vont très, très, très lentement. Je pense qu'on a les moyens d'aller beaucoup plus vite. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne va pas plus vite. Ce n'est pas faute de le dire, ce n'est pas faute de l'écrire. Il y a beaucoup de sphères, les gens sont convaincus. Je pense aussi que le nouveau modèle de développement qui a été proposé au Maroc n'a pas été assez précurseur sur ces questions-là. Il aurait fallu, à ce moment-là, mettre le paquet, si je peux me permettre l'expression, sur le développement de l'intelligence artificielle.
Parce que ça n'était pas dans l'air du temps, parce qu'on était après les printemps arabes et qu'il fallait insister davantage sur l'inclusion sociale.
Ou tout simplement parce que les gens qui étaient en charge de proposer des orientations n'ont pas eu suffisamment d'éléments pour aller dans ce sens.
Est-ce qu'il faudrait davantage s'appuyer sur les géants de la technologie, les géants américains ou chinois ou d'autres régions du monde et qui aujourd'hui sentent qu'ils ont intérêt à s'implanter en Afrique, que l'Afrique effectivement est le continent du futur avec sa démographie et tout ce qui va avec.
Oui, alors en Afrique, on sait que 70% de la population est en dessous de 30 ans. Donc il y a un terreau mais exceptionnel de talents. Et bien sûr, les géants du numérique...
Et de clients.
Et les géants du numérique, ils vont... Certainement, c'est déjà en cours, proposer un certain nombre d'initiatives. sur le continent africain. Mais moi, je pense que les pays africains ont tout intérêt à garder leur souveraineté numérique et leur souveraineté dans le domaine de l'intelligence artificielle. Collaborer avec les géants, c'est une chose. S'en remettre aux géants, c'en est une autre. Et donc, moi, je pense aujourd'hui que, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe, il faut créer une stratégie africaine du développement de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que, personnellement, je fais du terrain. Je vais dans les pays africains, on lance un certain nombre de projets d'envergure pour nous rapprocher de ces sources de talents, de formation, etc. Parce que on ne peut pas faire une stratégie à l'échelle africaine si on ne travaille pas main dans la main avec les Africains.
Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu sur l'intelligence artificielle où on dit souvent qu'elle va plutôt supprimer des emplois ? Comment est-ce qu'on fait pour convaincre que cette technologie va justement apporter du développement et de l'emploi et permettre à l'Afrique de ne pas miser que sur son pétrole, sur son gaz et ses ressources minières ?
Alors, par rapport à l'emploi, c'est une très bonne question. Il y a des études qui avancent que 97 millions de postes de position vont apparaître d'ici à 2030. Et la même étude dit que 85 millions de positions vont disparaître. Ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont se transformer, d'autres qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose au niveau global. Mmh. On se rappelle tous de Victor Hugo et de Mélancolia lorsqu'on a dit plus de petits-enfants dans les usines. D'accord ? Ça, je trouve que c'est salutaire pour l'humanité. Mais on a remplacé les petits-enfants par des robots, par des machines. Et la même chose va arriver avec l'intelligence artificielle. Sauf que le point de rupture, c'est qu'on n'est plus dans l'automatisation, mais on arrive à ce qu'on appelle l'autonomisation. C'est-à-dire qu'on va mettre des robots qui sont autonomes, pas des robots qui vont automatiser des tâches. Et donc, il est très important, lorsqu'on donne l'autonomie à des systèmes, en dehors de la sphère humaine, d'avoir un certain contrôle sur ces éléments-là.
Très concrètement, dans la vie des Africains, dans l'extraction minière, par exemple, dans les engrais, dans l'agriculture, là, il y a un vrai potentiel pour supprimer des travaux pénibles ou en tout cas atténuer la pénibilité ?
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la robotique, avec l'intelligence artificielle, fait beaucoup de choses, remplace beaucoup d'employés. Et c'est tant mieux.
On pourra extraire du cobalt
Complètement, bien sûr. Et aujourd'hui, à l'OCP, vous avez des machines qui vont extraire l'engrais, le phosphate, avant que ça devienne de l'engrais, la roche. Et ça, c'est fait avec des robots. Et moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille là-dedans. Il me dit, je suis très content d'être derrière mon écran et de ne pas être obligé de descendre à la mine. Tant mieux si on arrive à remplacer la pénibilité, à transférer cette pénibilité sur des machines. Mais là où il y a un petit problème, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a deux problèmes, je dirais. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer que les métiers pénibles, parce que vous avez des outils qui vont remplacer des secrétaires, qui vont remplacer du travail intellectuel, qui vont remplacer de la création.
Donc il faudra reconvertir des emplois.
Voilà, de ce qu'on appelle le reskilling, donc la transformation. Et en plus de cela, les suppressions et apparitions d'emplois ne se feront pas dans les mêmes endroits. C'est-à-dire qu'on va en supprimer peut-être en Afrique et en créer en Europe. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par le Kenya sur la prospective, sur l'emploi justement. Mmh. Et cette étude, elle nous dit qu'à horizon de 2034, la main-d'œuvre la moins chère va être plus chère que la robotisation. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces usines où l'on fait de l'offshoring, on fait du rassemblage, un certain nombre des usines, par exemple, comme pour les voitures ou d'autres choses, eh bien, on n'aura plus besoin d'humains. Ça ne sera plus que des robots. Et déjà, vous voyez, Amazon, tous les traitements des stocks se font avec des robots. Il y a plus d'humains qui circulent dans les usines. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que fait le continent africain ? Quelle formation on va donner à nos jeunes pour que les métiers qu'ils occupent aujourd'hui ou qu'on avait prévu qu'ils allaient occuper d'ici 2030, eh bien, il faut qu'on forme les jeunes à de nouvelles compétences pour accompagner ce mouvement. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, il va y avoir une fracture de l'intelligence artificielle et pas que de la fracture numérique.
Courte pause musicale avec votre choix, Amal Alfela Segrouchny, une chanteuse argentine, une chanteuse engagée dans ce pays à l'histoire tourmentée. De son vivant, elle qui est née dans une famille ouvrière et très pauvre, a chanté la justice, les droits de l'homme, la liberté face à la dictature. Mercedes Sosa, gracias a la vida, merci la vie.
Gracias a la vida.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Que me ha dado tanto.
Bruno Faure.
Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilustrado.
Gracias a la vida, l'icône argentine Mercedes Sosa, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. C'était le choix musical de notre invitée, pionnière de l'intelligence artificielle au Maroc et en Afrique.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Amal Alfela Segrouchny, un hub de l'intelligence artificielle, une plateforme de l'intelligence artificielle sur le continent africain. Ça veut dire faire venir des chercheurs, des ingénieurs, des chefs d'entreprise aussi qui feront vivre cet écosystème. Ça veut dire que pour les attirer, il faut aussi de bons salaires et de bonnes conditions de vie. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui ?
Alors oui, au sein de AI Movement, nous avons des conditions qui sont très intéressantes pour faire venir... des chercheurs ou pour faire venir des entrepreneurs. Mais pour moi, la conception du hub, elle est plus large. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a un an, on a lancé un programme qui s'appelle African Women in Tech and AI. Et ce programme, il a pour ambition d'aider des femmes africaines qui ont des idées de start-up ou de grands projets à les développer et à les faire monter en gamme grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle African Women in Tech and AI. Et donc on prend des femmes qui ont déjà des projets de tech et on leur fait une formation en intelligence artificielle et sciences des données. Ensuite, on va leur demander de présenter des projets qu'on va incuber. On va jusqu'à financer ces projets sur leur première année. Ces femmes-là, donc cette année, on a eu la première cohorte, on a eu des femmes sur le campus pendant 2 semaines, on avait 11 nationalités différentes d'Afrique. Bon, ces femmes-là, ce sont nos ambassadrices dans leur pays d'origine. Donc lorsqu'elles repartent avec des projets, nous, on les accompagne sur une année. Et si les projets sont scalables, peuvent aller à l'échelle, on est prêt à les accompagner pour des levées de fonds. Alors juste sur ce programme particulier, nous visons la formation de 150 femmes entrepreneurs sur 3 ans. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on espère ? On espère qu'à la fin de ce programme, on ait un premier réseau de femmes africaines dans le domaine de la tech et de l'intelligence artificielle, et 2, on aimerait voir émerger quelques licornes africaines dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Vous dites que l'intelligence artificielle peut aider à supprimer les injustices entre les genres, entre les hommes et les femmes. Pourquoi ?
Parce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour donner aux femmes des capacités qu'elles n'ont pas sans l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple concret. Une femme qui ne sait pas lire et écrire, qui a déjà 60 ans, on ne va pas l'envoyer à l'école. Mais il faut qu'on lui donne les moyens de lire ses documents, de payer ses factures, de répondre à un courrier. Et donc, cette femme-là, on va lui donner une application entre les mains, facile d'utilisation sur son téléphone. Elle va pouvoir scanner le document et interagir avec le document avec de la voix. C'est-à-dire, il y a un agent conversationnel sur cette application qui va lui résumer le document, qui va lui expliquer le document. Ça, c'est pour une personne qui ne sait pas lire et écrire. Mais vous recevez un document dans une langue que vous ne maîtrisez pas. La même chose, l'application, vous choisissez la langue source et la langue destination. Mmh. Donc, toutes ces choses-là font que aujourd'hui, sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, 79% peuvent être atteints grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Alors derrière tout ça, il y a aussi des questions d'éthique, évidemment. Vous y êtes profondément attaché, Amal Al-Fala Zeghrouchni. Vous avez été nommé à la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer dans une année comme celle-là, 2023? C'est un peu parti dans tous les sens. Hein. On a mis l'intelligence artificielle à toutes les sauces et parfois à des sauces qui peuvent inquiéter.
Tout à fait. Alors, la question de l'éthique est très importante. On ne l'a peut-être pas dit encore, mais AI Movement a reçu le label de centre de catégorie 2 de l'UNESCO. Donc, on est complètement aligné sur les questions d'éthique et de développement durable pour le continent africain. Donc, aujourd'hui, alors, si on regarde à peu près comme ça au niveau mondial, il y a eu 117 initiatives sur l'éthique. L'UNESCO, l'OCDE, le G7, le GPAI, etc., etc. Il ne s'agit pas d'avoir une éthique chacun. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver un consensus un peu général, global, sur les meilleures pratiques de l'usage de l'intelligence artificielle. Mais moi, je dirais qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, pour permettre une IA vraiment responsable, je préfère parler de gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Cela inclut l'éthique, qui apporte un certain nombre de principes, et cela inclut la régulation. La régulation, c'est très important. Ce qu'on a fait en Europe avec le RGPD, la régulation sur les données, il va falloir le mettre en place sur les traitements, sur l'intelligence artificielle, sur les algorithmes, sur le déploiement de l'IA, etc. Alors, il y a une initiative très importante qui est développée au sein de la Commission européenne sur ce qu'on appelle le AI Act, mais il va falloir sensibiliser tout le monde. Et est-ce que tout le monde va accepter la régulation européenne? Parce que les Chinois font la même chose de leur côté. Les Américains aussi, ils ont leur réglementation. Et de toute façon, l'Afrique aussi devra se pencher sur cette question. Alors l'UNESCO a réussi une prouesse très intéressante. Elle a réussi à faire adopter un texte par 193 États membres. Mais il y a encore, ces recommandations sont arrivées avant ChatGPT. Avec l'IA générative, on a d'autres problèmes qui sont... Donc, bon, l'éthique, par définition, c'est quelque chose d'évolutif. Mais alors, est-ce qu'on va repartir pour 2 ans pour savoir quelle éthique pour l'IA générative?
Une toute dernière question à Amal Al-Fala Zeghrouchni. Vous êtes entre la France et le Maroc. Hein. On peut vraiment dire que vous avez un pied de chaque côté de la Méditerranée. Que pensez-vous de la possible fin de la querelle des visas entre le Maroc et la France? La possibilité, effectivement, de pouvoir se déplacer plus facilement pour tout un chacun, pour les salariés aussi. C'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour vous?
Oui, oui, tout à fait. C'est une très bonne nouvelle parce que les collaborations, que ce soit dans le milieu professionnel, les entreprises, l'académique, on a des collaborations très anciennes avec la France et qui devraient continuer à se renforcer. Donc, créer des obstacles, des complications, ce n'est bon pour personne, ni pour la France, ni pour le Maroc. Je pense que on gagnerait beaucoup à fluidifier le mouvement entre la France et le Maroc, ne serait-ce que pour l'économie, mais aussi, vous avez énormément de familles qui sont entre les deux pays. les enfants, les parents, etc. Donc je pense que ça n'a pas lieu d'être, les complications entre la France et le Maroc.
La diplomatie au service de l'économie et de la vie des familles, c'est ce qu'on retient. Merci à vous, Amal Al-Fala Seghrouchni, présidente exécutive des Eye Movement, ce centre de recherche sur l'intelligence artificielle à l'université Mohamed VI Polytechnique. Merci d'être passée par les studios de RFI.
Merci beaucoup pour cette invitation et cet échange, je trouve très agréable.
Et on a bien compris que cette intelligence artificielle en Afrique sera au cœur des discussions en 2024. Merci d'être passé dans nos studios. Dans quelques instants, notre reportage, comme promis, à Casablanca, au cœur de l'entreprise Shari, entre technologie, commerce et finance. En attendant, une star actuelle de la chanson au Maroc, Douzi. Voici Anna Maghrabi, Je suis marocain. Pays, la terre de mes ancêtres, Cheb Douzi, chanteur belgo-marocain dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, en transit à Casablanca avant de dire adieu à 2023. Bouskoura, la grande banlieue de Casablanca, capitale économique de ce Maroc en pleine transition, nous y avons rendez-vous avec un chef d'entreprise que vous connaissez déjà, vous, auditeurs d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, et du grand invité de l'économie, Ismaël Belhayat, passé par nos studios parisiens au printemps dernier et que nous avons décidé de visiter à notre tour pour observer sur place le développement de sa société, Shari, le commerce B2B, business to business.
Bienvenue chez nous. Alors, notre métier principal chez Shari, c'est de permettre aux petites épiceries de proximité de pouvoir s'approvisionner avec l'ensemble des produits dont ils ont besoin. Et donc, on est une centrale d'achat digitale. Alors, digital, c'est les outils qu'ils utilisent pour commander chez nous, mais la réalité, c'est que derrière, il n'y a rien de digital. Ce sont des entrepôts physiques avec de la marchandise. Et donc, on reçoit les différentes commandes à travers différents canaux que sont notre application, mais aussi des messages WhatsApp, mais aussi des gens qui nous appellent au téléphone. On centralise les commandes auprès d'un système d'information qui les envoie vers ce qu'on appelle des préparateurs. Mmh. Et donc ces préparateurs utilisent un outil technologique qu'on appelle le Warehouse Management System, donc le système de gestion des entrepôts. Qui permet donc de savoir où est-ce que notre marchandise est disposée. Et donc on prépare pendant la journée l'ensemble des commandes qu'on a reçues afin de les livrer dans un délai qui ne dépasse pas les 24 heures.
Donc là c'est toutes sortes de produits. Là je vois des produits ménagers, il y a des produits alimentaires.
Tout à fait. Alors on a tout type de produits. Néanmoins, on sépare ce qui est alimentaire des produits ménagers justement pour éviter. D'ailleurs, c'est par la loi, on les sépare au niveau des entrepôts, mais aussi au niveau des camions. Mm-hmm. Mais on va le voir, on a finalement, on est un supermarché digital et on est très fiers de dire qu'aujourd'hui, on a dans notre catalogue à peu près 70% des produits qui se trouvent dans une épicerie. Pourquoi 70%? Parce qu'il y a certains produits qu'on n'a pas le droit de vendre, comme par exemple les cigarettes, mm-hmm. ou encore certains produits qui requièrent une logistique particulière, comme tout ce qui est chaîne de froid, qu'on n'assure pas aujourd'hui, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, on a de la confiture, on a des biscuits, on a du café, on a des, ça c'est du thon, on a de l'huile, on a des petits pois, des sauces, de la sauce vinaigrette, de la moutarde.
Donc ça c'est marché marocain?
Alors, nous, nos contrats de distribution nous autorisent uniquement à distribuer ces produits au Maroc et notamment auprès des épiceries. Maintenant, ces produits peuvent être produits au Maroc. On a d'ailleurs de très belles marques marocaines, comme peuvent être produits à l'étranger et importés. Voilà. Et donc, nous, généralement, on ne les importe pas nous-mêmes. On passe par des importateurs qui ensuite nous les revendent et on les distribue.
Donc on est dans un gros supermarché digital, parce que là je vois 1, 2, 3, 4, 5 étagères de quasiment 2 mètres chacune. Donc on est sur une quinzaine de mètres de haut. Il y a combien de mètres carrés au total là?
Là on est sur 30 000 mètres carrés et surtout on est raqué sur 5 niveaux. Et donc ces chariots élévateurs qu'on appelle Clark, ont la possibilité de pouvoir monter à des hauteurs assez importantes.
Uh-huh. Voilà. Bon, et c'est encore, contrairement à certains entrepôts d'une marque que je ne citerai pas, il y a encore des personnes qui font fonctionner le chariot élévateur et qui vont chercher les produits eux-mêmes.
J'ai envie de dire qu'ils ont probablement 30 ans d'avance sur nous. On en est encore très loin, mais...
Bon, mais ceux-là, Alibaba ou Amazon, est-ce que c'est un modèle? Est-ce qu'il y a des idées à prendre chez eux quand même, même si on est différent?
Bien sûr. Heureusement qu'ils sont là, parce que d'abord, ils nous montrent la voie, ils nous montrent que c'est possible. Ils sont sur des marchés beaucoup plus importants, donc ils ont la capacité de lever plus d'argent, de mieux les déployer, d'investir dans la recherche et le développement, et puis de nous montrer comment ça marche. Donc aujourd'hui, près de 250 personnes travaillent pour Chari sur différents postes de responsabilité. Bon, alors bien évidemment, il y a le management, mais surtout l'équipe technologique, qui est celle qui nous développe l'ensemble de nos outils. On parle aujourd'hui d'environ 20 personnes qui sont dans cette équipe tech, qui est d'ailleurs basée à Tanger, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la ressource humaine d'excellente qualité, avec une attrition qui était beaucoup plus faible. Et donc on a décidé d'aller vers Tanger au lieu de rester à Casablanca, simplement parce qu'à Casablanca, nos meilleures ressources se faisaient débaucher par les grands noms comme Capgemini, Accenture, qui souvent nous les récupèrent pour les envoyer en France.
Tanger serait-elle en train de devenir la capitale économique marocaine?
À Tanger, il fait beaucoup plus bon vivre. Et généralement, les personnes qui y sont pour la qualité de vie et ne quitteraient Tanger pour rien au monde. Et par conséquent, ils sont beaucoup moins débauchables que les jeunes ingénieurs casablancais aujourd'hui qui sont séduits par les grandes capitales internationales. Voilà. Alors ensuite, on a donc des personnes qui reçoivent les commandes, notamment les commandes qu'on reçoit sur WhatsApp de manière vocale et qu'on doit traduire en commande numérique. Mais on a aussi les préparateurs, mais aussi les livreurs, puisque aujourd'hui, par camion, nous avons deux livreurs. Un livreur, enfin une personne qui conduit et une personne qui fait la manutention lorsqu'on arrive chez le point de vente pour descendre les colis en question. Allez, maintenant je t'emmène au bureau où tu vas voir la tour de contrôle. Une équipe de téléconseillères, ce sont toutes des femmes, dont le métier consiste à avoir donc des conversations téléphoniques avec les points de vente ou de recevoir des messages vocaux sur WhatsApp avec des points de vente qui nous disent « Bonjour, j'ai vu cette offre aujourd'hui sur votre plateforme, j'aurais voulu recevoir un paquet de tel type de produit. » Et donc notre métier est de transformer ces messages vocaux en commandes réelles, digitales, qui par la suite arrivent aux entrepôts qu'on a vus tout à l'heure et qui sont préparés par des préparateurs, puis livrés par nos différents livreurs.
On ne voit que des femmes, là, dans cet espace de travail. Pourquoi seulement des femmes ?
Simplement parce qu'on s'est rendu compte que les points de vente, qui étaient à majorité des hommes, étaient beaucoup plus réceptifs aux appels des femmes. Et le taux de conversion des appels était plus élevé lorsqu'ils étaient passés par des femmes que par des hommes. Voilà. Et puis ça c'est d'un côté, et de l'autre il faut dire que les femmes sont beaucoup plus commerciales, et puis aussi on s'est rendu compte que les femmes avaient des talents que les hommes n'ont pas, et que les femmes sont sur certains services beaucoup plus efficaces, heureusement d'ailleurs, nous permettant aujourd'hui chez Chari d'avoir une majorité de femmes qui y travaillent. Voilà, nous avons aujourd'hui sur ce plateau à peu près 80 téléopératrices qui quotidiennement sont en contact avec nos différents clients. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Majda Boumtienne, je suis téléconseillée sur chari.ma. من خلال هاد لي زابيل تيليفونيك كنقدروا نعيطوا على دي كليون.
Grâce aux appels téléphoniques que nous passons, on peut appeler nos clients, les épiceries, pour leur proposer des produits comme de la lessive par exemple. On peut aussi gérer ses commandes par WhatsApp.
Par WhatsApp aussi.
Quelles sont les questions que posent les clients?
Nous pouvons répondre aux questions sur les livraisons, sur les factures avec les livreurs, sur le prix des produits, sur les délais pour récupérer les commandes par les livreurs. Moi, par exemple, je suis chargée des commandes pour la ville de Tanger, les lundis, les mercredis et les vendredis.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Pourquoi venir dans cette entreprise? Pourquoi Chari?
Pourquoi j'ai choisi de travailler pour Chari? Parce que j'aime les défis, j'aime me fixer des objectifs. Chaque mois, on nous donne des objectifs à atteindre. Et si nous réussissons, nous avons un meilleur salaire.
Merci.
On a aussi des magasins physiques, on en a aujourd'hui 4, 2 à Casablanca, 1 à Rabat et 1 à El Jadida. Alors ces magasins permettent aux points de vente de proximité, donc les épiceries, de venir s'approvisionner des produits dont ils ont besoin. Mais c'est surtout des magasins qui nous aident à former ces points de vente, à comprendre comment utiliser la technologie. Donc on va le voir, on a donc des bornes avec des formateurs et ces bornes ne sont que la représentation physique d'applications digitales, et donc nos formateurs expliquent aux points de vente qu'ils n'ont en fait plus besoin de revenir s'approvisionner. Donc c'est assez paradoxal, mais on reçoit les clients, on leur dit vous n'avez plus besoin de revenir parce qu'on a mis en place des outils technologiques vous permettant de pouvoir faire la même chose depuis chez vous. Mais donc ces magasins physiques nous permettent de faire cette formation et surtout d'attirer une population non technologifiée, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, afin de pouvoir l'éduquer à se technologifier.
Ismaël Belkayat, on va quitter vos entrepôts, les entrepôts de Chari. Vous êtes dans une phase d'expansion. Et vous attirez les sociétés de capital risque, vous attirez les investissements?
Oui, tout à fait. Donc nous, on est une start-up qui a débuté avec des fonds d'amorçage nous permettant de pouvoir prouver notre concept, suite à quoi nous avons commencé à avoir un peu de croissance et nous sommes allés voir des investisseurs plus aguerris en demandant de faire un financement de type série A qui nous a permis aujourd'hui de lever les fonds nécessaires pour mettre en place les infrastructures. Nous avons obtenu un agrément d'établissement de paiement nous permettant aujourd'hui de commencer à digitaliser les flux financiers entre les points de vente et leurs fournisseurs. Nous avons des investisseurs, j'ai envie de dire, du monde entier, puisque dans notre tour de table, il y a par exemple l'Université d'Harvard, mais aussi le fonds Rocket Internet qui est allemand, les Saoudiens de Khwarizmi, les Nigérians de Verod, mais aussi les Japonais de Keppel. Nous avons des fonds d'Asie du Sud-Est, comme le fonds My Asia, et aussi des Marocains, puisque l'université Mohamed VI Polytechnique est rentrée dans notre tour de table. Et bien évidemment, les Français de Orange, qui sont aujourd'hui dans notre tour de table, mais aussi dans notre conseil d'administration. Et donc le fait d'avoir des investisseurs du monde entier, ça nous permet d'avoir des exemples du monde entier, de startups similaires à la nôtre, mais dans d'autres géographies. Et par conséquent, ces mêmes investisseurs sont capables de nous orienter sur les bonnes décisions à prendre et souvent nous donnent des exemples de sociétés qui ont pris des décisions intéressantes dans d'autres marchés et qui peuvent être des exemples de succès à suivre.
Ismaël Belhayat, patron de Chari au Maroc avec sa compagne Sophia Alge. Quelques photos de ce reportage sur notre page Facebook RFI Echo. On se quitte provisoirement avec la chanson officielle des Lions de l'Atlas, l'équipe nationale de football marocaine qui participe à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Le Maroc et ses entreprises qui préparent de leur côté la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Plus qu'à vous souhaiter de tourner au mieux votre page de 2023 et de vivre une belle année 2024. Nous vous y réservons quelques surprises et nous tenterons de vous informer au mieux sur les grandes évolutions économiques de notre temps. Restez connectés sur RFI, RFI.fr et notre appli Pure Radio. Un nouveau journal dans quelques secondes. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.